Lights, camera.
Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. On parle de trois coups de cœur, un film détesté et un ou plusieurs parfois, plaisir coupable. Mon invité va dévoiler ses goûts un peu quétaine, son côté bonbon, comme on pourrait dire. Aujourd'hui, mon invité, c'est une future finissante de l'École nationale de l'humour QV 2020. Camille Dallaire, bonjour!
Allô!
Allô! Bon, on va dire tout de suite, t'es une bonne amie aussi, là. T'es pas juste une finissante de l'École nationale de l'humour. T'es une de mes très, très bonnes amies. Camille, t'as étudié en cinéma, t'as vécu en Californie, près d'Hollywood, on pourrait dire.
On peut dire, sauf que j'habitais sur une ferme de poulets, mais...
Mais t'es déjà allée à Hollywood.
Ouais, j'ai déjà été à Hollywood.
Donc, t'as déjà été proche du cinéma.
J'ai déjà été proche du cinéma, mais j'ai surtout marché dans de la merde de poulet.
Ben écoute, hein...
On vit comme on peut.
C'est ça. Je suis sûr qu'il y a bien des acteurs et des actrices à Hollywood qui diraient que tous les jours, eux autres aussi, ils marchent dans des fesses. Avant qu'on commence, Camille, dis-moi, c'est quoi ton rapport au cinéma? Comment c'est né ta passion pour cet art-là?
Je sais pas si je dirais que j'ai une passion. Ben, j'aime le cinéma, tu sais, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller étudier là-dedans, mais comme...
Mais tu regardes quand même beaucoup de films sans...
Mais je regarde souvent les mêmes films, c'est ça l'affaire.
OK.
C'est comme les films dont je vais parler, les films que j'aime, je les ai vus comme 100 fois, 150 fois.
Mm-hmm.
Alors qu'il y a 12 milliards de films que je pourrais écouter. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est une passion pour le cinéma ou une passion pour la nostalgie. Mais... ouais. Mais non, mais tu sais, c'est sûr que, bon, étant jeune... J'écoutais beaucoup de films de Disney, comédies romantiques et trucs comme ça. Puis je me suis fait brainwash, là, comme la plupart du monde, là, à croire que la vie, c'est un conte de fées. Mais fait que c'est un peu ça, mon rapport au cinéma, finalement. J'ai une haine profonde. Non, c'est pas vrai.
Non, mais t'as quand même étudié en cinéma.
Ouais, j'ai étudié en cinéma au cégep, là, pour ce que ça vaut.
Oui, mais c'est quand même... Oui, mais tu fais quand même des découvertes. Tu fais quand même plein d'affaires.
Ben oui, j'ai fait des petits films, là. Mm-hmm. Film maison, là, que je montrerai pas à personne, mais... mais c'était cool, ouais, c'est vraiment cool. C'est cool étudier en art en général, je trouve.
Oui, oui, ça fait une belle ouverture d'esprit.
Ouais, c'est ça que je trouve aussi, hein, ouais.
Ouais, donc sans plus attendre, on va commencer avec tes films, ta liste de films, le premier grand chef-d'œuvre du cinéma. C'est un incontournable, je pense que tout le monde... devrait le voir au moins une fois. Dans ton cas, c'est peut-être 350 fois. C'est le Titanic de James Cameron, 1997. C'est là que la espèce d'énergie sensuelle entre Leonardo DiCaprio et Kate Winslet est née.
On l'oubliera jamais.
Hein? Il y a une fenêtre de vieille voiture qui en garde une trace dans ses fenêtres pour toujours.
Exactement.
Dis-moi, bon, l'histoire est assez simple, là. C'est l'histoire d'un bateau qui coule suite à une histoire d'amour et un iceberg. Mais c'est quoi ton lien avec ce film-là? Pourquoi tu l'as mis dans ta liste?
Je sais pas pourquoi je trippe autant sur ce film-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe dans mon cerveau, tu sais, que plus j'écoute quelque chose, plus je m'attache. Tu sais, c'est un peu comme une relation... avec un être humain, là, une relation avec un film, je trouve. C'est plus tu passes du temps avec, plus tu apprends à, entre guillemets, connaître les personnages. Puis, tu sais, c'est un peu comme la série Friends, là, tu sais, comme le monde qui l'écoute, il l'écoute tout le temps. Comme ils finissent la saison 10, ils recommencent la saison 1, tu sais. Mais c'est un peu la même chose, c'est un peu le même rapport, tu sais, que j'ai avec les films que j'aime. C'est que je veux pas. Je sais pas, c'est comme ça devient comme un besoin de les réécouter. C'est comforting, c'est feel good, tu sais, c'est... Mm-hmm. Ouais, fait que c'est un peu ça mon rapport avec ce film-là. C'était pas nécessairement parce que j'ai trippé dessus la première fois que je l'ai vu ou... Ben, de toute façon, j'avais 6 ans, là, fait que...
Ouais.
C'était pas nécessairement ça, mais c'est venu plus tard dans ma vie, là, vers la fin de l'adolescence, début de la vie adulte, là, que j'ai comme recommencé à l'écouter religieusement et très souvent. Puis c'est ça.
Ouais. C'est quoi de ce film-là, les scènes qui t'ont marqué le plus?
Ben, les choses qui me marquent le plus, c'est en fait toutes les scènes que je préfère, c'est les scènes avec Rose quand elle est vieille, la vieille dame.
Oui.
Ça, c'est toutes mes scènes préférées. Je trouve l'actrice vraiment, vraiment excellente. Puis je trouve que c'est elle qui transmet le plus l'émotion du drame. Parce que moi, c'est ça qui me plaît aussi dans ce film-là. Surtout, c'est pas vraiment l'histoire d'amour, là. Ça, il y en a dans tous les films, puis c'est tout le temps un peu du pareil au même. Mais c'est vraiment le côté historique, tu sais, du drame qui est arrivé réellement là, à l'époque. Donc, de tout ce qui fait ressortir l'émotion, c'est à la fin, quand elle parle du nombre de personnes qui ont péri, puis tout ça, c'est comme ça, à chaque fois, genre, je verse une larme, là.
Non,
Alors que...
c'est quasiment un côté plus documentaire, même si c'est tous des comédiens, là, mais on est quasiment plus dans un documentaire, puis l'explication très, très à froid de ce naufrage-là, mais c'est vrai qu'elle a, tu sais, puis elle a été quand même nommée pour un Oscar pour ce rôle-là, alors qu'elle a, quoi, 10 minutes dans un film de 3 heures à peu près, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Je trouve juste que c'est ça qui est bon dans le Titanic, en fait. Puis, c'est ça qui fait en sorte que j'ai tout le temps envie de le réécouter. Mais en fait, maintenant, ce qui me donne envie de le réécouter, c'est que je connais toutes les paroles par cœur, puis que je peux le dire en même temps que les personnages. Puis, tu sais, je sais pas, là, ça donne un petit feeling, le fun aussi, là.
C'est quasiment ton karaoké, finalement.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas mal ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens de ce film-là? C'est quoi les moments qui viennent te chercher le plus, à autre que cette vieille madame-là qui raconte son histoire, Rose, vieille Rose?
Ben, ouais, outre le fait que le bateau coule puis que c'est dramatique, puis que.
Oui.
Ben, je pense que c'est juste comme le fait que ça expose vraiment la bêtise humaine aussi, tu sais, les mauvaises décisions que les gens peuvent prendre puis qui mènent à leur perte. Puis aussi, j'aime beaucoup le clash des classes sociales, tu sais. Je trouve vraiment que c'est un bel exemple, puis que ça se reflète encore aujourd'hui, puis que ça va probablement toujours se refléter. Puis j'aime le fait que les deux classes sociales, des deux extrêmes, en fait, se retrouvent ensemble malgré cet événement-là qui vient bouleverser tout, tu sais. En tout cas, c'est un peu ça, je trouve, qui est vraiment la beauté de la storyline, là. Ouais.
Non, c'est ça. Non, il y a vraiment ce rapport-là. Puis c'est, tu sais, pour l'avoir revu l'année dernière, puis je pense que c'est la première fois que je le revoyais depuis, peut-être pas depuis sa sortie, mais presque. C'est vraiment à quel point celui-là est scindé en deux. La première moitié, c'est l'histoire d'amour. Et c'est juste ça. Et la deuxième moitié, 1 heure et demie d'un bateau qui coule en direct. C'est tellement bien fait. Puis c'est de voir toute la détresse, toute la peur. Ce qui m'avait moins marqué, je te dirais, quand j'étais petit. Mais tu sais, c'est tous ces gens-là qui s'en vont vers leur perte, puis qui, peu à peu, prennent conscience que, hey, on survivra pas à ces
Ben,
à
mais c'est
cette
ça.
masse-là qui coule profondément dans l'eau, là.
C'est ça que j'aime aussi, c'est, tu sais, de voir justement le rapport entre les classes, puis de voir les riches, tu sais, qui sont super hautains, puis qui sont comme, tu sais, on se fout des pauvres, c'est de la merde, puis on veut juste arriver plus vite, impressionner comme la galerie et tout. Puis finalement, au bout du compte, ce qu'ils savent pas, c'est que tout le monde, tu sais, ils vont tous mourir, en fait, tu sais. Puis c'est ça que je trouve beau, parce qu'à la fin, quand on meurt, on est tous égaux, tu sais. Tout le monde meurt, puis c'est la seule chose qui est vraie, puis que tout le monde peut savoir pour sûr que dans la vie, on va tous mourir, peu importe ton clan, ta classe sociale, ton ethnie, là, ton ethnie, genre, ethnicity, là, je sais pas en français, on dirait. Ton sexe, ton genre, peu importe, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça que je trouve beau, c'est que il y a plus rien qui compte, tu sais, puis je trouve que ça donne envie d'être solidaires les uns envers les autres, puis d'arrêter justement ce flaf-là de jugement et ou de supériorité par rapport aux autres, là.
Ouais, si tu regardes ça, tu te dis, OK, si les riches dans ce film-là avaient eu un petit peu plus avaient mis leur ego de côté à un certain point, puis leur opulence de côté, ils auraient pu sauver beaucoup plus de gens. Ils n'auraient jamais pu sauver tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez de canaux. Mais c'est ça, c'était pas de ces gens-là qui avaient fait comme « Non, non, nous autres, on s'en va, puis on laisse les autres crever en arrière. » C'est ça, il y a plein de gens qui auraient survécu à ce naufrage-là. Même il y a un plan qui m'avait marqué, c'est quand t'as le gars, je me souviens plus, je pense que c'est le futur mari de Rose, là, où je me souviens plus, qui...
Carl,
qui veut soudoyer, il veut payer un
ouais.
gars pour lui dire « Hey, laisse-moi une place », puis que le gars prend le cash, puis il lance dans la face en disant « Ton argent n'a aucune valeur ici », j'étais comme « Ah, oh, damn!
» Ouais, mais c'est ça, puis c'est ça que je trouve vraiment cool aussi de ce film-là, ouais. Mm-hmm. Puis le fait aussi, tu sais, quand il parle justement, tu sais, du fait qu'il y a des bateaux qui sont partis avec comme 12 personnes, alors oui. qu'ils les ont testés avec genre 70 marins.
Ouais, ouais, puis 70 comme, gros bonhommes marins.
70 gros bonhommes, puis là, c'est 12 femmes et enfants, tu sais, puis je suis comme, c'est pas juste un film, là, c'est des ouais. faits, là, tu sais, j'ai lu ouais. sur l'histoire, puis c'est vraiment ça qui s'est passé, puis je suis comme... À chaque fois, ça me fait tellement comme... Ça me donne des frissons parce que je suis comme, à ouais. quel point t'as pas compris ce qui se passe, tu sais? Puis j'ai l'impression que on perpétue ça un peu souvent, la race humaine, tu sais, là, en ce moment, mm-hmm. avec le COVID, j'ai l'impression que le monde qui s'en calisse puis qui font n'importe quoi, c'est comme, t'as-tu pensé aux autres, tu sais? Puis j'ai l'impression ouais. que... Bon, en tout cas, c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme une leçon qui peut être un peu partout, là, puis qui est dans ce film-là aussi.
Ouais. Puis pour vrai, j'invite les auditeurs à aller sur YouTube. Il y a une vidéo en particulier qui dure comme une heure et demie, là. Ça n'a pas de sens à quel point c'est long, mais c'est le making-of du film, puis tout ce qu'ils ont déployé pour faire un film avec, à l'époque, on le rappelle, deux acteurs inconnus. Mm-hmm. Un réalisateur qui était connu, mais pour faire de la science-fiction, puis pour faire des films de bonhommes qui se tuent, là. Il avait fait Terminator, puis il avait fait Aliens, ouais. Puis une couple de films d'action avec Schwarzenegger. Puis là, il arrive avec un film qui a coûté, je sais pas combien, 200 millions à l'époque. C'est énorme. C'est une somme qui, encore aujourd'hui, est grandiose.
Ouais.
Puis les studios ont fait « OK, on sait pas dans quoi on s'embarque. » Si tu te plantes, écoute, nous, on est ruinés. Puis heureusement, il a gagné son pari, mais il a reconstruit à l'échelle 1-1 une moitié du paquebot. Il a failli tuer du monde aussi pour faire ça. Il a failli tuer les deux comédiens dans l'eau carrément. Là. Kate Winslet a fait une crise d'hypothermie, je pense. Je sais pas trop.
Je sais pas ça, par contre. Je sais pas.
Il a mis tout son monde en danger pour... Ben, tu sais, une entreprise qui, elle, déjà... Construire le plus gros paquebot du monde, c'est de la folie. Faire un film à échelle, Titanic, ça en est une autre.
Ouais.
Et heureusement que lui, il n'a pas frappé son iceberg en faisant son film, parce que personne qui a travaillé sur ce film-là, de qui on parlerait aujourd'hui. Ouais, non, pour vrai, ça m'avait ouais. vraiment donné des gros frissons en le revoyant l'année dernière. Ouais,
ouais, c'est une production impressionnante, là, quand même.
Ouais. Exact. Ton prochain film, Happiness de Todd Solondz, on n'est pas du tout à la même échelle que le Titanic avec ça. On est beaucoup plus à une échelle réduite, c'est microscopique. C'est un film de 98 avec, entre autres, Philip Seymour Hoffman, John Lovitz, Dylan Baker. Il y a beaucoup de comédiens aussi qui n'ont pas nécessairement eu des carrières flamboyantes. Mais qu'est-ce que ça raconte, Happiness?
En fait, Happiness, c'est comme un film par tableau un peu. C'est qu'on suit la vie de différents personnages. Au début, on ne sait pas trop c'est quoi le lien qu'il y a entre eux. Puis, chacun de ces personnages-là vit des trucs... mon Dieu, je ne sais pas comment l'amener. C'est vraiment bizarre, là. T'sais, comme, il y a vraiment beaucoup de déviances là-dedans. T'sais, la plupart des personnages ont des déviances, genre pédophilie ou harcèlement, ou en tout cas des trucs... des trucs qu'il ne faut pas faire dans la vie, les ouais. amis. mais c'est ça. Puis au cours du film, ben, on voit les liens entre les personnages. On finit par comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui les rassemble tous. Puis j'aime juste comme... C'est vraiment plein de scènes de malaise puis plein de scènes weird de choses que tu pensais jamais voir dans ta vie. Pis,
comme quoi, par exemple?
Ma scène préférée...
Oui.
C'est en fait, il y a un père de famille dans ce film-là qui est pédophile puis qui viole les amis de son fils sans que personne le sache en les droguant tous dans leur nourriture. Fait que...
C'est joyeux. ça rappelle Bill Cosby.
Ben oui. Il drogue toute la famille, puis quand la famille est toute endormie, ben, il peut violer le petit gars. Puis après ça, il en viole une couple d'autres, là, mais bon, c'est pas ça le point. Mais ma scène préférée, c'est à la fin, quand maintenant tout le monde est au courant que c'est un violeur. Il y a comme une scène entre lui et son fils, super malaisante, mais comme touchante en même temps. C'est vraiment, on n'est pas sûr d'aimer le feeling que ça nous donne. Mm-hmm. C'est que le petit gars, il lui demande « Pourquoi tu m'as pas violé moi? Je suis moins beau, je suis moins bon que les autres. » Mais c'est super triste. Wow. Super weird parce que tu sais, c'est comme pas quelque chose que tu désires dans la vie, mais le petit gars, il manque tellement d'estime puis de confiance que, en tout cas, c'est super deep puis super intéressant. Puis les acteurs, le petit gars, il est jeune, là, tu sais, puis super bon acteur, là. Vraiment impressionnant, vraiment bon.
Mm. Wow!
Ça donne le goût, hein?
Ben, en toute franchise, oui, j'ai envie de voir ça parce que, mon Dieu, c'est une proposition que j'ai jamais entendue avant.
C'est ça, ce film-là.
Ouais. Qu'est-ce qui vient te chercher avec ce film-là?
Je trouve juste que y a beaucoup de sujets dans la vie qu'on a peur d'aborder, mm-hmm. qu'on aborde mal, avec jugement, avec... Ouais. Je sais pas, mais je trouve juste qu'il y a plein de sujets tabous qui sont, c'est ça, qui nécessitent plus de lumière, plus de...
Oui.
Qu'on en parle plus, puis que ça soit bien fait, puis c'est ça que ce film-là fait. Mmh. Je trouve que ce film-là aborde plein de gros sujets super lourds,
oui.
mais que ça le fait en toute simplicité, en toute beauté, super bien exécuté. Puis, ouais, c'est ça.
Mm-hmm. À quel moment tu as vu ce film-là?
Je l'ai vu vraiment souvent, là.
OK. Mais te rappelles-tu de la première fois ou comment c'est rentré dans ta vie?
La première fois, je pense que c'est... Je l'avais pas vu au complet. Je pense qu'on écoutait des extraits au cégep là, dans un de mes cours quand j'étudiais en cinéma. Puis après ça, je l'ai comme réécouté par la suite. Puis après, je l'ai réécouté. Puis... À chaque fois que genre j'ai un nouvel ami ou une nouvelle conquête avec qui genre je fais d'autres choses comme j'écoute des films et des choses de même, ben je veux tout le temps faire écouter ce film-là à tout le monde que je rencontre. Fait que je l'ai tellement écouté.
Uh-huh. Mm. Puis je vais faire un lien avec ton humour que tu pratiques. T'aimes aller dans les zones taboues, t'aimes aller dans les zones où le public n'est pas nécessairement habitué d'aller aussi. Je ne sais pas si tu veux me parler de ça un peu.
Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'adore l'humour, j'adore faire rire, mais je veux surtout provoquer une réaction, tu sais.
Ouais.
Fait que, bon, le rire, c'est vraiment une super belle réaction, là. Ça fait tellement... Ça dégage plein d'affaires. Mais des fois, j'ai envie d'explorer d'autres choses, puis je parle, tu sais, de bien des sujets lourds aussi, là, genre le suicide en est un dont ben, les gens qui me connaissent, en tout cas, ils savent que j'en parle beaucoup.
Mm-hmm.
Mais tu sais, n'importe quoi, là, n'importe quoi que je... dont j'ai un peu de knowledge, là, tu sais, que genre, je peux en parler parce que je connais un peu ça, là, je vais pas parler de n'importe quoi, là, je vais pas parler de c'est quoi être une femme noire en Amérique, là, genre, je le sais pas. Mais tu sais, comme tous les trucs, comme le suicide, genre, je l'ai vécu, ben, pas moi personnellement, là, mais je l'ai vécu par quelqu'un d'autre.
Ouais.
J'ai, tu sais, comme les troubles alimentaires, il y a plein de trucs comme ça que je trouve qui doivent être abordés, puis j'aime ça le faire.
Mmh. Oui, puis c'est pas nécessairement de rire du sujet, mais c'est de vouloir le démystifier par le rire, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Je trouve juste que la comédie, le drôle, c'est genre le meilleur moyen de communication, puis c'est ça, ça sert pas juste à rire des choses, tu sais, ça sert à communiquer en général. Fait qu'il y a rien... Il n'y a rien qui ne peut pas être pris dans l'humour, tu sais,
je trouve.
C'est juste la façon de le faire, là, tu sais. C'est ça. Il y a quand même des trucs à faire attention, mais je pense qu'il y a tout le temps une bonne façon de rire de tout.
Mm-hmm. Ouais. Tu parlais de tabou, justement. Ton troisième film, qui, lui, en contient un énorme tabou, c'est Incendie, 2010, de Denis Villeneuve.
Ouais.
Ça met en vedette Lubna Zabal, Mélissa Desormeaux-Poulain et Maxime Godette. Peux-tu me faire un court résumé d'Incendie? Après ça, on va en parler.
Ben, en fait, Incendie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va spoiler.
Bien sûr, oui, oui. Ici, on spoil allègrement et sans vergogne, je vous le dis.
Ben, c'est des jumeaux qui, à la mort de leur mère, découvrent qu'elle leur a laissé une lettre qui leur demande d'aller dans son pays natal à elle pour trouver leur frère. Puis, leur frère et leur père.
Mm-hmm.
Puis, ils partent. Ben, en fait, la fille des deux jumeaux, là, il y a une fille et un gars, elle part. Et, bon, je ne vais pas raconter le film au complet, mais au final, réalise que le frère et le père sont la même personne parce que leur mère avait eu un fils étant plus jeune qui, lui, une fois qu'il a été plus vieux, il est devenu bourreau dans une prison où elle a été enfermée, puis il l'a violée à répétition et elle est tombée enceinte de son propre fils.
Mmh.
Donc, puis ça, c'est comme à la toute à la fin, ouais. Là, qu'on comprend ça, en fait, là, fait que c'est vraiment un punch d'en face, là, quand tu le sais pas, puis que t'écoutes le film la première fois.
Oui,
là, fait que,
tellement. Puis c'est Mélissa Desormeaux-Poulain qui le découvre, ben, son personnage, en fait, qui le découvre, puis ça, je sais pas comment là, jouer ça, parce que l'espèce de soupir d'horreur qu'elle pousse, mon Dieu, c'est tellement du bon jeu, c'est tellement bien fait, puis c'est hyper bien filmé.
Mais c'est bon, puis mais moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai écouté, j'avais même pas compris à ce moment-là que c'était ça. Ça m'a pris plus de temps.
OK.
Moi, ça a été quand... quand à la piscine, là, il voit les trois petits, elle voit les trois petits points sur le,
oui.
Sur le pied du monsieur. Puis là, elle arrive, puis elle voit que c'est son bourreau.
Mm-hmm.
Donc, les trois petits points sur le pied, c'est qu'elle avait fait ça à son bébé là, à la naissance. Donc, elle a comme fait 1 plus 1 égale 2. Mon enfant m'a violé et le père de mes enfants.
Ouais.
Donc, moi, c'était vraiment là que ça m'a vraiment rentré dedans solide. Là. Quand je l'avais vu au cinéma, là, j'imagine en 2010. Là.
Oui, oui. Ouais, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que ça provoque en toi, justement, une histoire comme celle-là? Puis je pense que tes deux derniers films dans ta liste là, sont assez éloquents là-dessus. Là, que
ouais.
C'est pas nécessairement se nourrir des malaises, là, mais c'est encore là, c'est tout ce qui est tabou, c'est toutes les espèces d'interdits. Tout ce qu'on s'empêche de dire, tout ce qu'on s'empêche de faire en or, mais en quoi cela, justement, Incendie, te parle?
J'aime beaucoup le rapport à la mère, je pense. Mm-hmm. Je trouve ça super intéressant puis super bien exploité.
Oui.
Puis, c'est peut-être un peu niaiseux, mais l'actrice me fait penser à ma mère un peu.
OK.
Physiquement. Fait que j'ai comme l'impression que ça me rappelle un peu moi comment on est loin d'avoir vécu ça là, okay.
Oh,
c'est
oui.
Pas ça que je suis en train de dire, mais ça me rappelle quand même, tu sais, c'est ça le rapport mère-fille, puis mais là c'est parce que là je l'ai 10 000 fois à l'affaire des tabous puis des malaises là, fait que clairement que c'est ça que j'aime aussi là.
Oui,
mais j'essaie de trouver d'autres points.
Mais peux-tu me parler justement de ta relation avec ta mère? Puis...
On est-tu rendu en psychanalyse, là, mon gars?
mon podcast peut être une forme de psychanalyse. Tu te livres comme tu veux.
Mais c'est super parce que j'ai plus d'argent pour aller voir mon psychologue.
Ouais, mais on est trop amis pour que je puisse être ton thérapeute. Fait que
non, je sais.
Parler comme si on était. Ben, fais juste me parler rapport amical. J'ai pas d'argent pour ça, franchement.
Thank God! mais c'est ça. Ben, ma mère, ça a été des up and down aussi, mm-hmm. Tout au cours de ma vie. C'est sûr que ça n'a pas tout le temps été facile avec mon père là, qui est mort quand j'étais adolescente. Donc, tu sais, c'est le pire moment. Là.
Mm-hmm.
T'es déjà pas facile à vivre, je pense, quand t'as 16 ans, que mon père, quand il s'est suicidé, ça a été toute une épreuve. Puis... j'ai pas tout le temps été facile avec ma mère, puis elle non plus, elle a pas tout le temps été correcte avec moi, mm-hmm. à cette époque-là, sachant que je venais de vivre quelque chose, ouais. De dramatique comme ça. Mais tu sais, je pense que c'est le chemin qu'on a parcouru depuis. puis qu'on soit maintenant très proches et qu'on ait réussi à passer à travers tout ça. Tu sais, je trouve que c'est ça, c'est plein de belles épreuves. Puis j'ai l'impression que la quête de la fille dans ce film-là me rappelle un peu la quête de retrouver ma relation avec ma mère aussi, tu sais.
Mm-hmm.
Que j'ai fait aussi.
Est-ce que ça a été sur le coup, quand tu as vu ce film-là, que ça t'a rapproché de ta mère, ou c'est plus avec le temps et ça n'a aucun rapport avec Incendie?
Ouais, non, c'est avec le temps, définitivement. Là, mm-hmm. C'est maintenant, aujourd'hui, je peux voir les liens, tu sais, entre différentes choses quand tu as du recul, tu sais, mais non, à l'époque, oublie ça, là, je faisais pas de lien entre rien et puis rien. Là, j'étais en dépression majeure. Ouais.
Ouais. Ben, écoute, c'est sur cette note que se termine non pas le podcast, mais la première partie.
Super!
Colin, c'est... ben oui, hein? Écoute, il y a toutes sortes d'épisodes.
Je suis lourde, là,
Ouais, mais c'est important quand même, parce que, tu sais, ça fait partie... Tu sais, ces sujets-là, puis les films que t'aimes, ils ont une répercussion en toi, ça vient chercher une corde sensible. Ouais. Tous tes films viennent chercher quelque chose. Si c'est sous cet angle-là, tant mieux. Puis, je veux dire, depuis tantôt, on parle de tabou, on parle d'aborder des sujets difficiles, le cinéma le fait, mais la discussion qu'on a en ce moment sert à ça. Je veux dire, t'as pris particulièrement deux films qui sont pas faciles, puis heureusement qu'on en parle. Si le public trouve ça trop lourd, je suis désolé pour eux.
Ben non, c'est
mais
pas trop
lourd. Non, mais en même temps, c'est que un podcast comme le cinéma, il faut se confronter à des discussions puis à des interactions qui se mettent en rapport, en lien avec des choses qui sont parfois plus difficiles, qui nous secouent. Puis tant mieux qu'on vive ça en ce moment. Moi, ça me rend juste encore plus heureux.
Bon, ben je suis contente, Guy.
Alors voilà. Donc, donc sur cette philosophie à 5 sous, on va prendre une petite pause et on vous revient de l'autre côté. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de film, Instagram, On jase de film. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. On est de retour à On jase de films avec mon invité Camille Dallaire, avec qui en première partie, on a parlé des films Le Titanic et des très légers Happiness et Incendie. En deuxième partie, on aborde quelque chose que t'aimes pas, puis c'est pas un film en particulier. En fait, il y en a un au travers de ça, je pense que avec lequel tu as vraiment eu beaucoup de difficultés, mais c'est un genre cinématographique précis qui est la science-fiction.
Ouais.
Je trouve ça intéressant parce que, puis surtout la science-fiction, j'ai l'impression qu'il amène dans d'autres mondes dans lesquels tu te reconnais pas du tout, là, en fait.
Ouais.
C'est quoi ce lien-là que tu n'as pas avec la science-fiction?
En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime le documentaire, qui aime le fait vécu, mm-hmm. qui aime les choses plausibles et réelles.
Ouais, très terre-à-terre, très terre-à-terre.
Ouais, très terre-à-terre, genre, je sais pas pourquoi, en fait. Mm-hmm. Je me suis pas questionnée à savoir pourquoi que c'était comme ça, mais on dirait que j'ai comme besoin qu'il y ait un lien avec la réalité. J'ai besoin que... Ben, pas besoin, là. Je suis capable de... C'est pas que je suis pas capable de comprendre la science-fiction, mais c'est juste que ça me parle vraiment moins, tu sais. Je tripe vraiment, c'est ça, sur le documentaire, là.
Ouais. Il y en a un film dont tu m'as parlé à quelques reprises que tu trouves imbuvable, puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a un lien avec Denis Villeneuve à faire, mais c'est Blade Runner de Ridley Scott. Le lien avec Denis Villeneuve, évidemment, c'est que Denis Villeneuve a réalisé la suite de ce film-là. Tu as essayé de le regarder, tu t'es endormi. Pourquoi tu... En dehors de l'aspect, c'est pas du documentaire, là, mais...
Ouais, non. Ben, le premier, j'ai pas essayé d'écouter le deuxième, là,
mm-hmm.
mais le premier, je l'ai écouté encore une fois au cégep. Là, moi, on dit que j'étais obligée d'écouter des films dans ce temps-là.
Ouais, tu peux pas juste toujours regarder les mêmes.
Non, c'est ça. Je pouvais pas tout le temps écouter le Titanic au cégep, même qu'ils me l'ont pas fait écouter. C'est très...
sacrilège.
Mais, ouais, sacrilège. Non, c'est ça. Ils nous avaient fait écouter Blade Runner, puis pour vrai, j'étais pas la seule à avoir haï ça. Là. Vraiment, tout le monde dans ma classe avait détesté ça. Mais moi, personnellement, je pourrais même pas te dire c'était quoi le film. Tu sais, j'étais pas capable de suivre. J'étais juste genre, mais à quoi bon écouter ça? Tu sais, c'est... je comprenais même pas pourquoi. Pourquoi?
Ouais. Je peux saisir pourquoi. Moi non plus, ça m'a pas fait un grand impact la première fois que je l'ai vu. Je peux pas dire que j'ai un rapport d'amour inconditionnel envers ce film-là. Là. Tu sais, si je partais sur une île déserte, c'est définitivement pas dans mon top 10 de films que j'amènerais. Tu sais, j'apprécie l'esthétique, j'apprécie la technique, j'apprécie tout ce qu'ils ont fait, même la philosophie derrière, mais c'est très dense, c'est très aride comme film. Ça joue avec des espèces de concepts existentialistes qui ont, à certains égards, qui ont peut-être mal vieilli aussi, là, puis c'est de la science-fiction pure. Mais même quelque chose de plus de base, là, comme Star Wars, est-ce que ça te rejoint ou même pas encore là? C'est...
J'ai pas essayé de l'écouter parce que pour vrai, j'ai pas d'intérêt. Je sais qu'il y a bien du monde qui trippe là-dessus, mais il y a bien du monde qui aime pas le documentaire aussi, puis moi, je fais juste écouter ça à longueur de journée, là, quand j'écoute pas le Titanic. Là, fait ouais. Que... ouais. Fait que, non, c'est ça, je veux... j'ai comme juste pas envie de me faire subir ça. Là, mm-hmm. Je sais que j'aimerais pas ça, puis je vois pas l'intérêt. Ouais.
C'est une très bonne réponse, en fait. Je serais même curieux, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à nous parler, eux, de leur rapport à la science-fiction, si eux-mêmes, ils aiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils aiment pas? En quoi ils se reconnaissent pas là-dedans? Puis c'est un genre assez diversifié, là. Mettons, E.T., est-ce que tu es plus prête à regarder un E.T.?
Ben, il y a des affaires comme qui... Il y a des affaires qui me dérangent un peu moins, comme je disais, tu sais, quand ça a une espèce de lien avec la réalité, là.
Ouais.
Dans le sens où c'est pas juste du monde qui vit dans un autre monde ou dans l'univers, ou tu sais, comme des affaires que, en ce moment, c'est pas tangible, tu sais, c'est...
Mm-hmm.
Mais, tu sais, mettons, Harry Potter...
Oui, qui est plus en fantastique, mais oui, on comprend.
C'est plus fantastique, mais comme... En théorie, vu que j'aime pas les choses qui existent pas, je devrais dire « Ah non, Harry Potter, j'aime pas ça. Mm-hmm. » Mais Harry Potter, tu sais, vu que ça se tient dans la réalité, puis qu'il y a les moldus qui sont nous,
oui.
Puis comme que les moldus savent pas que ça existe...
Parle pour toi, là.
Ouais, c'est ça. Toi, t'es quelle famille?
Moi, je suis clairement un pauvre souffle.
Ah ouais, pauvre souffle.
Clairement
pauvre souffle. Ah, t'es tellement pauvre souffle.
Toi?
Moi, je pense que je suis Gryffondor, mais c'est un peu dole.
Ben, c'est correct. T'sais, c'est un peu comme l'Université de Montréal des maisons, là.
Ouf.
Tu sais, c'est... Ben, je sais pas, t'es destiné à des belles choses, mais en même temps, c'est... Ben, c'est un peu classique en même temps. Moi, je suis très bien dans Pouf Souf.
Ben non, mais j'aimerais ça être arrière, autre chose. Puis... J'aimerais ça être autre chose, mais j'ai l'impression que je suis Gryffondor, là.
Ouais.
En tout cas...
Mais ça, oui, non, t'as cette âme-là.
Je me vois pas être Serpentard.
Non.
Puis Pouf Souf non plus. Je pourrais peut-être hésiter avec Serdaigle, mais je pense que je suis plus Gryffondor que Serdaigle. En tout cas. Mais ouais, c'est ça, vu que ça se tient, tu sais, ça se pourrait, genre, qu'il y a une école de sorciers et que personne ne soit au courant. Ça se pourrait.
Ça se pourrait.
Ça, c'est...
Ben, tu sais, de la même manière, on va faire un parallèle encore là, mais tu sais, l'École nationale de l'humour, c'est l'école des sorciers de... des arts pour... Ben, tu sais, je veux dire...
Wesh! C'est quoi ce lien de merde, là?
Non, mais je veux juste dire que, tu sais, il y a plein de gens qui... Tu sais, il y a des gens qui veulent devenir humoristes, qui veulent à tout prix aller à l'école de l'humour. Il y a quelque chose de mythique autour de ça. Quand tu reçois ta lettre d'acceptation, mon Dieu, que t'es excité. Pour les gens de l'extérieur, c'est un peu... OK, il y a une école de l'humour, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous apprenez à écrire des blagues, puis t'es comme, ben... On a des cours, mais en même temps, c'est pas clair qu'est-ce qu'on fait là, puis tu sais, traverses toutes sortes d'affaires, puis
j'avoue.
on a nos Voldemort, on a nos coins cachés à l'école.
Ah, définitivement. Ben ouais, c'est vrai. On a eu un comparatif à faire.
Ouais, puis je me souviens plus c'était qui, mais quelqu'un disait, ben, pour les personnes entre guillemets non-humoristes qu'ils appellent les moldus, justement, parce que
Ah ouais, hein?
c'est une espèce de milieu un peu hermétique en même temps vu de l'extérieur. Fait que.
Ouais, quand même, ouais.
Ouais. Pensons.
Ça va?
Oui, je suis en train de tout faire un récapitulatif de ce que je viens de dire, puis je suis comme. Ah, oh, ça sonne un peu tata. Mais bon, on va l'assumer. Hein, c'est pas la. J'en
T'es
suis pas
pour
à ma
souffle
première.
après tout.
C'est ça, j'en suis pas à ma première expérience d'avoir l'air fou. Mais on va passer. Maintenant, c'est toi qui vas avoir l'air un peu fou
Ah bon?
avec tes choix. Ben oui, ben tu sais, c'est donnant-donnant. Non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de jugement. Tes plaisirs coupables, ça c'est vraiment du gros bonbon, là. C'est dégoulinant. C'est Hairspray et High School Musical. Tu m'en as donné deux parce qu'il y avait Zac Efron dedans. Donc,
Ouais, en fait, le coup de cœur, c'est Zac Efron quand j'avais 15 ans,
c'est
là.
ça, c'était lui ton bonbon.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus ça, je pense, que d'autres choses. Je me rappelle quand j'avais cet âge-là, puis que genre j'avais des posters de lui dans ma chambre de Hairspray puis High School Musical, puis je suis pas mal sûre qu'il y avait des trous de bave où il y avait la bouche de Zac Efron.
Es-tu sérieuse?
Ben non, là, mais t'sais. Je suis pas vraiment sérieuse, mais t'sais, j'ai dû lui donner des petits becs, là.
Wow! OK, bon,
Ben,
pourquoi pas?
Nick Carter en a reçu beaucoup quand j'étais plus jeune aussi.
Nick? Ah, oh, OK, t'es vraiment une Gryffondor.
Non, mais là, t'avais genre 5 ans, là, Nick Carter, là, c'est correct que je lui donne des petits bisous.
Eh oui, c'est sûr.
C'est plus bizarre,
OK.
Zac Efron à 15 ans, là, ça, c'est weird.
Oui,
15 ans,
oui,
c'est supposé d'avoir une tête sur les épaules un peu.
oui. Définitivement. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, je sais pas, tu sais, c'est quoi ton. Est-ce que tu apprécies encore aujourd'hui Hairspray et High School Musical ou.
Ben, je connais encore toutes les chansons par cœur.
OK.
Fait que c'est dur de pas aimer ça quand tu peux chanter tout le long.
Ouais.
Par contre, j'ai réécouté High School Musical là, pendant le confinement, vu que ben, j'ai aussi réécouté Hairspray. Hairspray, j'aime encore beaucoup ça. Je trouve qu'il
Ouais.
y a des beaux messages qui sont transmis à travers ça. High School Musical, par contre, je te dirais que ça attire de la patte un peu, là.
Dans quelle mesure? Qu'est-ce qui fonctionne avec un puis qui fonctionne pas avec l'autre pratiquement ben 15 ans plus tard là, à peu
Hey,
près?
hein, on est rendu vieux. Ah, ah là là.
Ça fait un bout.
Tabarouette. Ben, c'est juste que High School Musical, c'est très, très genré, là. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Si t'es telle personne, t'as le droit de faire ça. Sinon, t'as pas le droit. Puis, c'est juste comme super. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu discriminatoire, puis un peu wrong.
Moi, pour vrai, j'ai jamais regardé High School Musical, même quand c'est sorti, je m'approchais de ça avec une perche, là, tellement je
Je
veux pas être
comprends
proche.
tellement.
Ça raconte quoi?
Moi, j'ai tout le temps eu honte en passant, hein. Le
D'aimer
seul
High School Musical?
plaisir coupable,
Oui.
d'où la honte. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est... Mon Dieu, c'est pathétique, là, l'histoire. C'est deux jeunes, hein, un gars et une fille, Troy et Gabriella, qui se rencontrent lors d'une soirée de Nouvel An, parce qu'ils se font pousser sur la scène pour chanter du karaoké alors que les deux, ça leur tente clairement pas. Puis finalement, hey, mon Dieu, les deux, ils réalisent en même temps qu'ils ont une voix d'ange alors qu'ils n'avaient jamais chanté. Fait que là, ils sont comme waouh, échangeons nos numéros de téléphone, hein? Fait que là, ils échangent leur numéro de téléphone, et bye bye, ils ne s'en voient plus jamais. Mais là, c'est la rentrée scolaire, hein, après le temps des fêtes. Et qui déménage dans la même ville et la même école secondaire que
Pas pour
Troy?
vrai.
Gabriella.
Gabriella.
Fait que là, hein, une amitié, slash peut-être amourette,
Oh.
se tisse entre les
Oh.
deux tourtereaux qui doivent gérer le fait qu'ils ont déjà des passions dans la vie, donc ils ne peuvent pas en avoir une autre. T'sais. Troy joue au basketball, donc il ne peut pas chanter, ça va faire fuir ses amis.
Mais c'est le même dans la vie. Tu sais, toi, t'es humoriste, tu peux juste faire rire, tu peux pas aborder des sujets profonds.
Non, c'est ça, c'est fini, là. Une fois que tu
Ben oui.
décides ce que tu fais, tout le reste disparaît.
C'est point barre,
Donc,
final, bâton.
c'est ça que j'ai adoré de ce film.
Ouais.
Non, c'est ça que j'haïs, en fait. Mais. C'est ça. Fait que, en gros, c'est l'histoire. Puis là, évidemment, à la fin, ben, là, ils font leur petit spectacle là, à l'audition. Puis hey, c'est magnifique. Là. Puis là, tout le monde se rallie en derrière eux, là, malgré le fait qu'ils ont décidé de faire autre chose que ce qu'ils étaient supposés de faire.
Écoute, j'ai tellement l'impression que tu me décris une espèce de film qui serait sorti en 1954. Là.
Ben, ouais. c'est semblable.
Ouais, ouais. Puis pour Hairspray, qu'est-ce qui fait que ça marche plus aujourd'hui? En fait, juste pour faire un petit background du film, moi, c'est quelque chose que j'avais vu dans le temps. J'avais vu aussi l'original, qui est pas un musical, mais qui a quand même un gros aspect musique au travers. C'est écrit par John Waters, qui est le maître du freak et du creep aux États-Unis. Ouais. C'est un gars qui va lui aussi jouer dans des tabous. Il a mis, et c'est un des premiers à avoir normalisé les personnes trans. C'est un des premiers à avoir abordé des questions de genre, de sexualité, d'homosexualité à l'écran aux États-Unis à une époque où c'était très mal vu. Il a fait ce film-là, Hairspray, dans les années 80. Et en 2007, il y a une adaptation du musical de Broadway qui a été faite. Ça raconte quoi?
Ben, en fait, c'est une jeune femme, jeune fille peut-être, là, adolescente, un peu corpulente, qui veut dans la vie, elle, son rêve, c'est de danser, en fait. Puis... mais là, vu qu'elle est différente, entre guillemets, là, de toutes les gens dans le crew de dance, ben, elle n'est pas acceptée vraiment au départ, puis tout. Puis c'est un peu cette quête-là, la quête de cette jeune fille-là. Mais il y a plein d'autres trucs à travers ça. Il y a vraiment un beau message par rapport à l'identité noire, par rapport justement à l'identité de genre. En tout cas, je trouve juste que c'est vraiment plus ouvert sur la différence, sur tous ces sujets-là, que, encore une fois, là, comme je le répète depuis tantôt, qui sont un peu plus tabous, puis qui ont besoin qu'on en parle, puis qui ont besoin d'être exposés, puis d'être normalisés, puis d'être...
Ça le fait de façon très lumineuse aussi, là. C'est zéro lourd, puis tu sais, je veux dire, t'as John Travolta là-dedans avec une perruque déguisée en madame. Là. Il fait la mère, je pense, de cette jeune femme-là.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est quand même subtil, tu sais, fait que, bon, peut-être que ça peut rentrer insidieusement dans la tête de des gens qui sont un petit peu plus fermés d'esprit, puis faire un petit bout de chemin peu à peu, tu sais.
Ouais, ben c'est sûr, parce que moi, à l'époque, je vais me confier là-dessus. Quand c'est sorti, donc en 2007, moi, j'étais un gros fan de Tarantino et de violence extrême, donc de Pulp Fiction. Et John Travolta joue dans Pulp Fiction. Et incidemment, quand je l'ai vu déguisé en femme, il y a un côté de moi, jeune moi de 17-18 ans, qui était là comme « Non! » John Travolta peut pas faire ça. Puis j'ai vu le film et j'ai dû admettre qu'il était très bon en dame. Ça m'a fait évoluer. Qui aurait cru?
Ben tant mieux, hein, parce que moi j'ai quasiment un peu moins honte d'avoir trippé sur High School Musical à cet âge-là que d'avoir pensé que c'était pas correct que John Travolta joue une femme.
Et avec raison. Avec Merci. Raison. Ça, je te le donne parfaitement.
Un point pour moi!
Un point pour toi. J'étais... Ben, tu sais, on est tous un peu idiots quand on est jeunes et une manifestation.
Ben oui, on a toutes... Tu sais, c'est ça la beauté de la vie, hein? C'est qu'on grandit, on évolue, puis on change de façon de voir certaines affaires, puis c'est une bien bonne affaire, puis c'est pour ça qu'on aime ça supprimer nos vieux statuts Facebook.
Super. Écoute, Camille, c'était un plaisir de te recevoir au podcast.
Ben, merci de
m'avoir reçu. Ben, écoute, tu es toujours la bienvenue. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres films desquels on va pouvoir jaser. D'ici là, si les gens veulent te retrouver, veulent te rejoindre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font?
Ben, ils vont sur facebook.com et ils entrent dans la barre de recherche Camille Dallaire.
Ça marche de même, ça, hein?
Oui, c'est comme ça en général. Puis tu peux faire exactement la même chose sur Instagram, Cam Dallaire.
Et voilà.
Super facile. Super facile.
Magnifique. Je suis Guilla Saint-Cyr avec Camille Dallaire. On a jasé de films. Et je vous dis à la prochaine!